RFI. Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. À première vue, c'est un sujet banal qui peut, aux yeux de certains, relever plus du confort, de l'intime que de la santé, en tout cas, que l'on n'aborde pas facilement en public. Mais regardez de plus près, la qualité du transit intestinal conditionne notre qualité de vie de la première à la dernière heure. Les coliques du nourrisson, la constipation passagère ou chronique liée à la prise d'un traitement, une alimentation déséquilibrée, des ballonnements irrépressibles, tous ces troubles du transit peuvent gâcher la vie de celles et de ceux qui en souffrent. D'autres manifestations digestives, comme des diarrhées prolongées, appellent une réponse médicale et certains signes doivent alerter sur un risque de pathologie plus grave. Mais évidemment, pas facile de parler de ces symptômes parfois gênants dans des sociétés pudiques où les tabous l'emportent sur un certain bon sens qui aujourd'hui restreint, au nom des bonnes manières, le cercle des personnes habilitées à parler ouvertement de cette activité digestive, de ces troubles, de ces caprices, de ces maladies, aux jeunes enfants, au personnel soignant et à quelques comiques spécialistes du registre scatologique. Alors, le temps de cette émission, c'est à vous de sortir du silence pour poser toutes vos questions sur votre transit, votre digestion, sans complexe, et essayer d'y trouver des réponses aussi simples que naturelles. Le transit dans Priorité Santé. Pour en parler avec nous, docteur Jean-François Kountou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin gastro-entérologue. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne de Côte d'Ivoire le professeur Alain Attia, chef du service d'hépato-gastro-entérologie au CHU de Yopougon à Abidjan. Vos questions, bien sûr, on les attend sur le numéro de Priorité Santé 33 84 22 75 75 et sur notre page Facebook. En fin d'émission, on va retrouver au téléphone le professeur André Choulika pour évoquer avec lui les recherches, les applications thérapeutiques innovantes dans le domaine des cancers, nouvelle génération d'immunothérapie qui cible notamment les cas de leucémie pédiatrique résistante.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Jean-François Kountou, avant d'aborder avec vous les problèmes de transit, hein, que l'on parle de constipation ou de diarrhée, douleurs digestives, flatulences, tout cela on va bien sûr en parler. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un transit normal, un transit sans souci?
Un transit intestinal normal, c'est une évacuation quotidienne ou plus de trois fois par semaine du tube digestif sans inconfort abdominal, sans ballonnement, sans difficulté d'exonération.
Alors, en matière de transit, c'est l'ensemble de l'appareil digestif qui est impliqué ou une partie seulement ?
Et c'est l'ensemble du tube digestif viscéral et intestinal qui est impliqué, et l'intestin grêle a une implication relative, mais c'est surtout le côlon qui est responsable de la fonction intestinale.
On entend dire, docteur Jean-François Kountou, que y compris la mastication, c'est un élément important dans cette digestion. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai, parce que il faut préparer la digestion intraluminale, et que le mélange avec la salive commence par préparer au transit intestinal.
Est-ce qu'on peut dire que le repas lui-même compte dans la qualité du transit, à savoir, docteur Jean-François Kountou, le temps que l'on met à manger, être au calme pendant que l'on mange, est-ce que tout ça a un impact sur la qualité du transit intestinal?
Ça a sûrement un impact, ça n'a pas été scientifiquement étudié, mais la raison laisse penser que ça a un impact, encore une fois, pour préparer la digestion intraluminale des différents aliments, leur réabsorption et pour éliminer les aliments qui doivent être qui doivent être passés dans les selles.
Alors quand vous dites intraluminal pour le grand public, pour expliquer, définir...
Intraluminal, ça veut dire toute cette pharmacologie qui se passe à l'intérieur du tube digestif, qui ça commence dans l'estomac et ensuite dans l'intestin grêle où il y a les différents aliments sont libérés et réabsorbés pour ne laisser que les cendres et qui vont faire le transit intestinal.
Alors, à partir de quand, tout à l'heure on disait transit normal, transit sans souci, à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'à l'inverse, il y a un dérèglement, docteur Jean-François Kountou, et quelles sont justement ces grandes manifestations du dérèglement du transit ?
Alors, le dérèglement du transit est soit la constipation, soit la diarrhée. Pour la constipation, on parle de constipation quand il y a moins de 3 évacuations de selles par semaine et que la défécation est perturbée dans 25% des cas, soit par la nécessité d'un effort de pousser, soit la nécessité de recourir à des manœuvres digitales, soit la sensation d'une vidange incomplète, soit la sensation d'un blocage, soit la sensation de selle très dure. Ça définit la constipation.
Alors, du côté des explications, docteur Jean-François Kountou, qu'est-ce qui explique justement qu'on en arrive à cette situation qui peut être particulièrement inconfortable pour le quotidien ?
Alors, il y a beaucoup d'explications. On doit d'abord faire la part entre la constipation fonctionnelle, c'est-à-dire un trouble qui n'est pas une maladie au sens propre, mais qui est un dysfonctionnement du tube digestif, de la constipation organique liée à une maladie tumorale, endocrinienne, neurologique, iatrogène, beaucoup de médicaments ralentissent le transit intestinal. Ça, c'est le volet de la constipation dite organique. Mais la constipation fonctionnelle, elle est liée à des troubles multiples, notamment à une modification du microbiote intestinal, à une modification de certaines enzymes, et notamment de certaines enzymes, des acides coliques et des acides biliaires qui sont probablement perturbés. Et la dernière raison, c'est une hyposensibilité au niveau de la muqueuse rectale.
Ça veut dire que en fonction de la cause, en fonction de l'explication, c'est ce qui va déterminer le traitement, le médicament ou la conduite à tenir du point de vue de l'hygiène.
Oui, à fonction. Alors, les causes organiques, il faut traiter les causes. Ça, c'est clair. Mais dans les troubles fonctionnels, il faut faire le distinguo entre la constipation de transit, c'est-à-dire les anomalies de la progression à l'intérieur du côlon, et les troubles de l'exonération, c'est-à-dire ces troubles qui sont liés à la difficulté de la vidange de la partie terminale du côlon. Et l'appréhension thérapeutique est différente pour ces deux propositions.
Alors tout à l'heure, docteur Jean-François Kountou, vous avez évoqué rapidement ces médicaments qui compliquent le transit. Comment on explique justement qu'autant de médicaments aient comme effet secondaire la constipation ou à l'inverse de provoquer des diarrhées, en tout cas d'influencer la qualité du transit intestinal ?
Alors il y a plusieurs explications. L'explication, elle est souvent motrice. Elle est souvent ces médicaments-là agissent sur le système sympathique ou parasympathique en perturbant la motricité intestinale. Mais ils peuvent aussi agir sur le microbiote en désamorçant la normalité de la flore intestinale.
Et c'est pour ça, par exemple, qu'on peut conseiller dans certains cas de prendre des probiotiques quand on prend certains médicaments. Je pense bien sûr aux antibiotiques, hein, c'est la chose la plus classique, je m'excuse. Quand on parle justement d'un dérèglement, des diarrhées, des maux de ventre, là, on peut conseiller ce genre de choses, des levures éventuellement aussi.
Absolument, les probiotiques ont pris une part très importante depuis qu'on a bien compris ou qu'on a mieux compris l'intérêt l'implication de la flore intestinale dans ces troubles-là. Mais les probiotiques, il faut les prendre en dehors, quand on les associe notamment à une antibiothérapie perturbe la normalité de la flore intestinale, il faut prendre les probiotiques après l'antibiothérapie et pas pendant l'antibiothérapie.
Alors que c'est parfois conseillé, non, de le prendre en même temps, ou c'est quelque chose que vous avez constaté?
C'est illogique parce que les antibiotiques tuent le probiotique que vous donnez.
Donc il faut le prendre en post-cure.
Oui.
Alors, Quelle différence entre les laxatifs présents sur le marché, justement, est-ce qu'il y a tel ou tel trouble qui appelle tel ou tel traitement ?
Alors, les laxatifs ont une activité et un principe actif différent. Il y a les laxatifs osmotiques qui ont pour but de retenir à l'intérieur de la lumière colique les électrolytes et l'eau pour augmenter la fluidité et le volume des selles. Il y a les laxatifs de l'Est, c'est-à-dire les bulky laxatifs des anglo-saxons, et qui a pour but de augmenter le volume des selles et la contraction colique est plus efficace lorsqu'il y a un résidu volumineux que quand la lumière intestinale est vide. Et ces laxatifs de l'Est, c'est essentiellement les spagules et les fibres. Et les fibres solubles ou insolubles. Et puis, il y a les laxatifs... Il y a les laxatifs qui agissent directement sur la motricité, et les nouveaux laxatifs dont on parlera tout à l'heure. Et puis, il y a les laxatifs stimulants, irritants, comme le séné ou le bisacodyl, qui ont une activité sur la motricité très importante. Ces laxatifs ont été dénoncés il y a quelques années pour donner des troubles secondaires, mais ils sont réhabilités depuis quelques années maintenant.
Alors, docteur Jean-François Countou, on va avoir tout de suite des questions très concrètes, les questions des auditrices et des auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et nous donnons tout d'abord la parole à une auditrice qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Cette auditrice, c'est Michel. Bonjour Michel.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, Michel, le docteur Countou vous écoute.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Voilà, moi j'ai un grand souci. Le lait, c'est l'une de mes boissons préférées, mais à chaque fois que j'en prends, j'ai des ballonnements, des bourdonnements de ventre. C'est pareil aussi pour le haricot. Dès que j'en mange, je suis très très mal à l'aise. Alors, pour me sentir mieux, je prends des thés digestifs. À chaque fois que je prends du lait, je dois prendre du thé digestif. Je mange le haricot, je dois aussi prendre du thé. Alors, je me pose la question, est-ce que ça sera comme ça à chaque fois? Et qu'est-ce que je dois faire? Parce que ça devient insupportable.
Michel, voilà. Une question. Vous dites des thés digestifs. De quoi s'agit-il précisément de ces thés? C'est quoi comme produit? Vous voulez procurer où, par exemple?
Non, c'est des thés qu'on achète dans les supermarchés. C'est écrit, par exemple, on écrit thé digestif, mais la composition, on peut, par exemple, mettre camomille, verveine.
Des infusions.
Fleur d'oranger.
Et vous sentez les bienfaits quand vous prenez ces produits?
Oui, c'est aussitôt, bon, disons 10 à 15 minutes après, je sens que mon ventre devient plus relax, je peux facilement faire des gaz, mais sinon, si j'en prends pas, je suis mal à l'aise, voilà.
Donc Michel qui souffre de ballonnement quand elle boit du lait, quand elle mange des haricots, docteur Jean-François Countou, c'est quelque chose d'assez classique.
Hein. Oui, c'est tout à fait classique, c'est archétypal même. Hein. Elle a une incompétence en lactase et elle ne peut pas débobiner le lait et qui entraîne des troubles digestifs majeurs. Souvent, il y a une diarrhée, mais plus souvent encore, il y a un ballonnement, une augmentation des gaz et qui est très caractéristique. Et là, la première chose à faire, c'est de supprimer la cause. Et donc, elle n'a pas d'autre sortie que d'éviter l'absorption du lait et aussi des haricots. Le mécanisme pour les haricots est moins clair, mais en tous les cas, pour le lait, c'est très très typique. Et alors, elle peut le remplacer éventuellement. Le lait cru et les yaourts sont interdits dans cette situation parce que ils génèrent les troubles qu'elle dénonce. Et il faut remplacer par du lait de soja éventuellement qui peut se substituer là, mais on n'a pas d'autre proposition thérapeutique que la suspension de la cause.
Docteur Countou, il existe sur le marché des laits sans lactose. Est-ce que ça changerait quelque chose dans le cas de Michel ou non?
Ça diminue les perturbations, les flatulences sans les faire disparaître complètement.
Michel, vous avez entendu ce que vous dit le docteur Jean-François Kountou. Il va falloir vous passer de lait si vous voulez éviter ces ballonnements. Hélas pour vous, peut-être vous pensez que vous pouvez avoir accès à d'autres laits, des laits végétaux, même si le terme n'est pas tout à fait approprié. En tout cas, des boissons végétales à base de soja, par exemple.
J'ai déjà essayé le soja une fois, mais bon, j'ai eu des réactions après sur... J'avais le corps qui démangeait, je sais pas, j'ai essayé une fois et puis j'ai laissé.
Ça vous a pas convenu. Bon. Bah, en tout cas, désolé. Pour ce lait, en tout cas, c'est mal parti. Va falloir passer à autre chose. On vous souhaite en tout cas une très bonne journée.
Et un salut sans le lait, hein.
Oui, on peut aussi s'en passer à Pointe-Noire. On va partir pour la Côte d'Ivoire, à Abidjan, où l'on retrouve Charles. Bonjour, Charles.
Bonjour, Caroline.
On vous écoute, Charles.
Alors, moi, mon cas, je peux dire, est un peu spécial. Parce que depuis plus de 15 ans, je suis très constipé. Mmh. Alors, deux fois par jour, j'utilise la poire, en fait.
Une poire rectale.
Une poire rectale, oui. Mmh. Alors, parce que mon père, il était, je veux dire, il est constipant. Et il le répétait à l'époque, vous allez avoir aussi le même problème. Alors, aujourd'hui, franchement, j'ai tout essayé. Donc,
quand vous dites j'ai tout essayé, vous avez essayé quoi particulièrement? Parce que tout, non. Quoi?
Oui, effectivement, parce que je me souviens, il y a 6 ans de cela, j'avais suivi des traitements, mais malheureusement, je ne me rappelle plus.
Vous avez consulté un médecin, excusez-moi Charles, est-ce que vous avez consulté un médecin? Vous lui avez demandé s'il y avait des médicaments qui pouvaient vous soulager?
Oui, il m'avait, à l'époque, il m'avait prescrit une série de médicaments. Alors, je les avais laissés un mois après parce que, bon, ça n'allait vraiment pas, je ne me rappelle plus vraiment, je me rappelle juste de Contalax qui faisait partie, c'était un laxatif. Mais bon, après je suis revenu à la poire encore.
Charles, une dernière question avant de bien sûr donner la parole au docteur Jean-François Kountou. Oui. Depuis quand vous avez recours à cette stimulation mécanique pour aller aux toilettes? Depuis que vous avez quel âge?
Depuis, on va dire, 23 ans. Hein.
Depuis des années et des années. Mais quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas de problème? Quand vous étiez adolescent, vous n'aviez pas de problème?
Non, pas du tout. Non, pas du tout, non. Vers 23, 24 ans, et puis bon, là, j'ai commencé à avoir des constipations, 2, 3, 4 jours, 5 jours, et puis bon.
Et vous avez des frères et sœurs, l'habitude est familiale, ou c'est que vous qui faites ce genre de choses?
L'habitude est familiale, mon père, lui, il va même pas à la selle sans sa poire rectale. Alors, mes frères et sœurs, pareil, mais bon, je sais pas trop... quelle est la périodicité, mais bon, voilà, mais on souffre tous de ça.
Docteur Jean-François Kountou, constipation héréditaire et familiale, en tout cas des habitudes qui sont assez...
Familiale possiblement, héréditaire, c'est pas sûr, mais il faut faire le... Quel est votre problème, monsieur? Est-ce que vous avez d'abord une sensation de besoin? Avez-vous envie d'aller aux toilettes?
Oui.
Bon.
Oui.
Et est-ce que votre constipation commence justement quand vous entrez dans les toilettes? Autrement dit, est-ce que c'est une constipation pour exonérer? Est-ce que vous avez des difficultés pour faire sortir la selle?
Oui.
Voilà. Bon. Oui. Alors, ça s'appelle une dyschésie, c'est-à-dire une constipation terminale, qui peut être associée à une constipation de transit en amont, mais il est certain que les laxatifs habituels ont peu d'intérêt dans ces cas-là. Avez-vous utilisé ou vous a-t-on prescrit des suppositoires vous permettant de vider votre intestin sans avoir besoin de pousser de façon exagérée, de recourir à des manœuvres digitales, etc.
Non.
On vous a jamais prescrit des... Vous auriez tout intérêt à utiliser des suppositoires gazeux qui s'appellent des suppositoires déductiles qui L'introduction du suppositoire dégage des gaz et permet de vider l'intestin terminal, le rectum, parce que vous n'êtes pas capable de vider le rectum. Alors pourquoi vous n'êtes pas capable de vider votre rectum ? Il y a deux raisons essentielles. Ou bien vous avez ce qu'on appelle un anisme, c'est-à-dire une inversion du système d'exonération. Normalement, quand on a une envie d'aller aux toilettes et qu'on se positionne aux toilettes, il y a une ouverture de l'angle, l'effort de poussée abdominale entraîne une ouverture du sphincter et l'évacuation. Vous, quand vous faites ça, vous avez non pas une ouverture, mais vous avez une fermeture paradoxale du sphincter externe et du puborectal, ou bien une non-ouverture. Ce qui fait que vous poussez sur une porte fermée. Et c'est bien évident que vous n'arrivez pas à satisfaire votre envie. La deuxième raison, c'est qu'il est possible que vous ayez des troubles de la statique pelvienne, et notamment une descente d'organes du rectum, une rectocèle, c'est-à-dire une espèce de hernie du rectum, ou bien, et ça, c'est des troubles qui empêchent et qui entravent l'évacuation, parce que plus vous poussez, plus c'est votre rectum qui sort, c'est les parois rectales qui sortent, mais pas le contenu du rectum, hein. Et ou bien, alors vous poussez dans une rectocèle, c'est-à-dire que les efforts de pousser se font pas en face du canal anal, mais se font dans la hernie, dite rectocèle. Alors donc, deux causes. Soit vous avez une cause fonctionnelle, c'est-à-dire que votre sphincter ne s'ouvre pas. Alors ça, ça se rééduque. Soit vous avez une anomalie anatomique. Hein, et voilà. Alors comment faire la preuve de ça ? Il faut, il y a deux examens. Il faut une manométrie anorectale avec une épreuve d'évacuation du ballonnet qui nous permettra de comprendre et de voir quel type d'empêchement sphinctérien vous avez. Et puis le deuxième examen, c'est de faire une défécographie, une colposcytodéfécographie, c'est-à-dire une radio du rectum en position assise, et de façon à voir ce qui se passe lorsqu'on vous fait pousser.
Docteur Jean-François Kountou, excusez-moi de vous interrompre, ça se fait dans un service de gastro-entérologie à l'hôpital, comment ça se passe ? Parce que encore faut-il que Charles ait la possibilité de le faire à Abidjan, absolument.
Oui, alors ça se fait dans un service de radiologie.
Où
on fait soit une défécographie comme je viens de l'indiquer, soit une déféco IRM, hein. Mais c'est ce qui permet d'analyser les anomalies structurelles, c'est les anomalies anatomiques qui perturbent votre évacuation.
Dans un service de radio, mais ça sera prescrit par un gastro-entérologue, j'imagine.
Absolument.
Donc la première chose à faire, Charles, c'est d'aller consulter un gastro-entérologue si vous en avez la possibilité à Abidjan.
Et la première chose à faire, c'est de recourir au suppositoire déductil, quand même.
Première solution pour aller dans l'immédiat.
Dans l'immédiat.
Pour se soulager dans l'immédiat.
Mais on doit pouvoir corriger vos troubles sans problème, monsieur. Hein.
Voilà, pour trouver une solution au long terme et sortir un petit peu de ces mauvaises habitudes. Très bonne journée à vous, Charles, à Abidjan. On va rester à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour prendre en ligne Ousmane. Bonjour, Ousmane.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, Ousmane.
Oui, en fait, moi, franchement dit, j'ai trop de crampes au niveau de l'estomac. Mm-hmm. Et puis, en plus de cela aussi, je rote beaucoup. Mm-hmm. Voilà, je rote beaucoup et puis j'ai plusieurs fois des banalements. Ça peut m'arriver que je peux faire 4 à 5 jours sans aller au sel. Donc, j'aimerais savoir si le fait d'avoir des banalements, des crampes à l'estomac et puis l'Europe aussi, si c'est beaucoup, si c'est lié, comment dirais-je ?
Alors, la ligne n'est pas très bonne, mais j'ai quelques petites questions à vous poser, Ousmane. Au niveau de votre alimentation, vous avez une alimentation diversifiée, vous mangez des fruits, des légumes, et au niveau des boissons, vous buvez des boissons gazeuses ?
Oui, je prends les boissons gazeuses et puis, bon, souvent aussi, je prends les fruits. En fait, je suis un peu, comment dirais-je, nomade en fait, en ce qui concerne l'alimentation. Voilà, je mange un peu de tout.
Vous faites pas particulièrement, vous ne faites pas particulièrement à votre alimentation pour calmer vos crampes d'estomac, pour essayer de réguler votre transit. Vous êtes pas très regardant là-dessus.
Non, pas très regardant. Bon, souvent quand j'ai des crampes, j'utilise le médicament Gaviscon.
Du Gaviscon.
C'est pas bon, souvent ça calme un peu. Bon, souvent aussi, bon, l'Europe de tous. Je ne sais pas si c'est lié à la constipation, parce que souvent je peux faire 4 à 5 jours même sans aller au sel.
Et vous dites, vous buvez des boissons gazeuses, vous en buvez dans quelle quantité?
Oui, peut-être une fois par jour, peut-être une fois chaque 2 jours. Voilà. Je prends les produits laitiers aussi.
Et vous buvez aussi, vous prenez aussi des produits laitiers. Docteur Jean-François Kountou, vous avez peut-être d'autres questions à poser à Ousmane avant de
lui
répondre?
Oui, quel poids avez-vous, monsieur?
Bon, je pèse 85 kilos.
Pour une taille de
1m80.
Non. Oui, ce que vous décrivez ressemble à des troubles fonctionnels qui entrent dans ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable et la dyspepsie, c'est-à-dire des anomalies fonctionnelles et qui ne correspondent pas à une maladie organique, bien que il faille quand même vérifier la raison de vos crampes. C'est une crampe, c'est une douleur spasmodique. Et quand surviennent ces crampes, par rapport au repas notamment?
Est-ce qu'elle reste longtemps ou ce sont des coups qui vous prennent comme ça, qui vous serrent le ventre?
Est-ce qu'elle vous réveille?
De façon sporadique, non. Elle ne pas de façon sporadique. De temps en temps, souvent il y a des aliments. Quand je mange trop épicé, souvent, voilà, je ressens ça. Et puis bon, souvent aussi, quand c'est un peu trop gazeux, voilà. Quand je prends les boissons gazeuses, et puis souvent, quand je prends aussi l'alimentation un peu épicée, voilà, je sens des crampes. Voilà. Donc, quand je sens des crampes, je paye le Gaviscon à la pharmacie. Voilà. Et puis, quand je prends ça, ça passe un peu. Mm-hmm. Voilà. Je peux faire 2 ou 3 jours encore. Maintenant, quand je recommence aussi à prendre, ça me fait encore, ça recommence. Voilà. Donc, et puis, bon, j'aimerais savoir si c'est beaucoup lié à la constipation, parce que je peux faire 4 à 5 jours sans aller au sel.
Est-ce que les maux, les troubles que décrit Ousmane sont liés à sa constipation? C'est ce qu'il demande ou plus ça, c'est son habitude de vie?
Ils accompagnent sa constipation parce qu'il a un syndrome de l'intestin irritable et en amont de ce syndrome de l'intestin irritable, il a une dyspepsie, c'est-à-dire une vidange probablement gastrique perturbée. Il faut commencer par traiter votre transit intestinal, réguler votre transit intestinal, associer à ça des probiotiques, parce que ça c'est une façon de corriger votre inconfort, des antispasmodiques et puis éventuellement prendre des dérivés pancréatiques qui permettront d'améliorer la digestion haute.
Donc allez voir votre médecin, même un généraliste, qui pourra vous conseiller sur ces différents traitements à prendre, combinés pour améliorer votre qualité du transit.
Il n'y a rien d'inquiétant dans vos plaintes là. Il suffit de régler un tout petit peu et votre alimentation et le fonctionnement à la fois du côlon et à la fois de l'estomac.
Voilà Ousmane, bonne journée à Abidjan. On prend un dernier auditeur en Guinée, à Conakry, c'est Mabrouk. Bonjour Mabrouk.
Bonjour docteur.
Docteur Jean-François Kountou vous écoute, on écoute votre question.
Oui, la question est la suivante, c'est que j'avais une constipation à longue durée, ça fait plusieurs années, donc je n'arrive pas à aller au ciel, ça, des fois ça m'arrive 2 à 3 fois de ne pas aller au ciel, mon ventre constipe très très souvent, et quand je pars à l'hôpital, on me prescrit des produits que je prends. En ce moment, au moment où je prends des produits, 2 à 3 semaines, voire un mois, ça pouvait calmer, mais ça recommence après. Donc je voudrais savoir s'il y avait une hygiène alimentaire que je devrais suivre ou bien s'il y avait des produits que vous pouvez me recommander.
Vous dites, oui, vous dites Mabrouk, on m'a prescrit des produits. Est-ce que vous avez en tête le nom de ces produits, peut-être des laxatifs qu'on vous a prescrits pour essayer de vous soulager?
Oui, on m'a prescrit ça, exactement.
Mais quoi comme produit?
Bon, c'est ce que je ne retiens pas exactement le nom de ces produits, je ne retiens pas.
Vous n'avez pas retenu le nom. Est-ce que on vous avait aussi conseillé de changer votre façon de manger, votre alimentation, donner des conseils sur ce plan-là?
Oui, on m'a suggéré de manger beaucoup manger des fruits et de boire beaucoup de lait.
Alors voilà la question de Mabrou qui souffre de constipation. Il a été traité plusieurs fois, il ne se souvient plus des produits. Il essaye de manger plus de fruits, de boire du lait, mais ça ne le soulage pas. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, docteur Jean-François Kountou?
Eh ben, pourquoi vous êtes constipé? Vous êtes constipé parce que vous n'avez pas envie d'aller aux toilettes ou parce que vous avez des difficultés pour évacuer? Encore une fois, pour faire le distinguo entre la constipation de transit et la constipation terminale. Est-ce que vous n'êtes pas appelé pour aller aux toilettes?
Je pars souvent, même si je pars aux toilettes, mais je n'arrive pas à évacuer facilement.
Oui. C'est donc une constipation de transit intestinal. Ça veut dire que la migration des selles à l'intérieur de votre tube digestif est ralentie pour plusieurs raisons. D'abord, peut-être par la qualité de votre alimentation, par la qualité de votre hydratation, bien qu'encore une fois, ça soit discutable, mais il est préférable de boire beaucoup, un litre et demi en dehors des repas, avec en choisissant des eaux qui contiennent du magnésium pour stimuler la motricité intestinale. Et puis, il faut utiliser, alors recourir à des fibres, à la prise de fibres, à des mucilages dont je parlais tout à l'heure. Si c'est pas efficace, il faut proposer des laxatifs osmotiques type Movicol, Forlax, que vous prenez le matin à jeun.
Ce sont souvent des poudres à dissoudre dans de l'eau.
Voilà. Et puis, si c'est pas efficace, on peut y ajouter éventuellement de l'huile de paraffine. Et puis, si c'est pas efficace, la troisième méthode, c'est de recourir à des laxatifs stimulants, type Dulcolax, Bisacodil, donc, ou bien Séné. Mais il faut que vous compreniez on va corriger votre maladie, on ne va pas vous guérir. Hein, c'est comme vos lunettes. Elles corrigent vos yeux, elles corrigent votre vue, mais on ne vous guérit pas. Quand vous n'avez pas vos lunettes, vous ne voyez plus. Alors, quand vous n'avez pas les médicaments pour réguler votre transit intestinal, eh ben, votre transit intestinal redevient perturbé. Il faut donc, en permanence, avoir une canne thérapeutique pour permettre le fonctionnement de votre intestin.
Voilà, Mabrouk, ces conseils, il faut vous traiter au long cours, c'est bien ça ce conseil. On vous souhaite une bonne journée en Guinée à Conakry. On a parlé comme ça de problèmes, on va dire, du transit chez des personnes qui n'ont pas de maladie grave. Par contre, docteur Jean-François Kountou, quels signes, quels symptômes doivent pousser à consulter sans tarder? Quel type de douleur? Est-ce qu'on peut décrire justement ce qui pourrait aller vers un diagnostic, par exemple, d'occlusion intestinale ou de péritonite, là, des crises aiguës qui doivent être traitées de toute urgence? Comment distinguer une crampe d'estomac, on va dire, d'une douleur de péritonite?
Alors, la chronicité est un facteur de fonctionnalité. Et donc, plutôt rassurant, quand les gens viennent vous voir en disant « j'ai mal au ventre depuis 10 ans », on peut tout de suite les rassurer, c'est qu'ils n'ont pas de maladie grave. Hein. C'est le caractère brutal et la variabilité de la symptomatologie et la modification. Ça, c'est une première chose. Et puis, la perturbation du transit intestinal, l'arrêt brutal du transit intestinal. Le réveil nocturne est un signe extrêmement important. Les maladies fonctionnelles, la constipation, la diarrhée fonctionnelle ne réveillent pas les gens, ne réveillent jamais les gens. Mais la maladie organique, elle ne dort pas la nuit et donc elle réveille les patients. Et ça, c'est très caractéristique dès l'anamnèse, dès l'interrogatoire. Il faut suspecter une maladie organique. Et puis, il y a l'amaigrissement. Il y a la fièvre, il y a les évacuations pathologiques de glaire, de sang, et il y a l'intensité des douleurs. Tout ça doit et l'installation récente de ces plaintes doit attirer l'attention et faire procéder à des explorations morphologiques immédiates.
Docteur Jean-François Kountou, vous restez avec nous. On va tout de suite rejoindre la Côte d'Ivoire.
Priorité Santé sur RFI.
Pour vous retrouver, professeur Alain Attia, bonjour.
Bonjour, madame Caroline Paré.
Vous êtes chef du service d'hépato-gastro-entérologie du CHU Diopougon à Abidjan. Alors, professeur Alain Attia, quels sont les troubles du transit pour lesquels les patients viennent le plus souvent vous voir en consultation à Diopougon?
Alors, les troubles du transit les plus fréquents pour lesquels les patients viennent nous voir, c'est surtout la constipation, les ballonnements et les douleurs abdominales. Un peu moins fréquemment, la diarrhée. Et il faut estimer à peu près à 30% les motifs de consultation ayant trait à ces symptômes en gastro-entérologie.
Alors, ces troubles donnent bien sûr lieu à une prise en charge, à des traitements, des protocoles. Est-ce que dans la plupart des cas, professeur Alain Attia, il y a justement un traitement qui s'installe, mais il y a aussi toute une série de conseils d'ordre diététique pour changer certaines habitudes alimentaires?
Oui, peut-être avant de parler de ça, je voudrais quand même insister sur le fait que les patients qui viennent consulter, on doit bien distinguer les signes fonctionnels en faveur d'une pathologie non organique, en recherchant en particulier des signes d'alarme. Et ces signes d'alarme sont la rhétorragie, l'amaigrissement, la fièvre, comme l'a dit le docteur Conto, que je salue au passage, la symptomatologie nocturne, une anémie, tous ces signes-là doivent faire suspecter une maladie organique et pousser les malades à aller consulter rapidement pour que le médecin leur prescrive des examens en conséquence.
Oui, tous ces symptômes inquiétants. Est-ce que justement, vous, quand vous prenez en charge ce type de symptômes, il y a une endoscopie qui suit ou il y a d'autres types d'examens complémentaires?
Alors, comme je le disais, si les symptômes sont récents et il y a des signes dits d'alarme, que le sujet a plus de 50 ans ou qu'il y a une modification récente d'une symptomatologie qui était chronique, on va demander des examens complémentaires et la coloscopie est en bonne place pour rechercher en particulier un cancer colorectal.
Est-ce qu'on peut parler d'un déficit d'information au sein de la population en matière justement de cette santé digestive, professeur Alain Attia, où les gens sont plutôt bien informés?
Non, il y a quand même un déficit d'information. Pas beaucoup de patients qui ont vraiment les bonnes informations. Ça peut même être à l'origine d'une errance diagnostique, des consultations, des automédications, des prescriptions directement en pharmacie, voire le praticien, et un retard à la prise en charge.
Et on parlait tout à l'heure des examens complémentaires. Si on va encore plus loin, l'option chirurgicale, est-ce qu'elle est souvent préconisée ou c'est encore quelque chose de très rare en Côte d'Ivoire, professeur Alain Attia, cette chirurgie digestive en cas justement de lésion?
Oui, quand le malade a par exemple un cancer colorectal, on fait un bilan. Et ce bilan permet d'établir le stade évolutif de la maladie. Si le cancer est localisé, non localement avancé, sans métastase et qui relève de la chirurgie. En ce moment, on le propose et ça se fait en routine chez nous.
Professeur Alain Attia, on a vu en France des messages d'information, des campagnes, en particulier pour la sensibilisation après 50 ans et même avant pour les familles à risque, pour ce cancer colorectal, qui est une cause très importante de mortalité un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il y a des messages du même ordre en Afrique de l'Ouest, en particulier en Côte d'Ivoire, ou c'est quelque chose qui se fait encore attendre?
Oui, c'est quelque chose qui fait encore attendre. Je pense que des efforts doivent être faits dans ce sens-là. Peut-être en utilisant la téléphonie mobile, en utilisant les radios confessionnelles pour toucher le plus grand nombre, les radios de proximité, les communautés, pour faire véhiculer ces messages.
On a entendu tout à l'heure, ça ne concerne pas forcément le professeur que vous êtes, mais le médecin que vous êtes, des conseils pour des personnes, des auditeurs qui souffraient de constipation. On a dit par exemple de l'eau avec du magnésium. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on peut conseiller de façon très pratique en termes de fibres, en termes de fruits, pour les personnes justement qui ont un transit un petit peu capricieux, dirons-nous, pour les aider justement dans leur hygiène de vie?
Alors, c'est des fruits de saison en particulier, les ananas, les papayes, les melons, ce genre de fruits, des mangues quand c'est la saison,
oui.
Et boire suffisamment pendant la journée, en moyenne 1,5 litre par jour, faire une activité sportive régulière, avoir une alimentation équilibrée. Bien souvent, l'alimentation n'est pas forcément équilibrée et surtout les horaires des repas sont très élastiques en fonction des contraintes professionnelles, alors que bon, c'est des facteurs qui peuvent être des facteurs déclenchants ou aggravants. Les troubles fonctionnels intestinaux.
Merci beaucoup, professeur Alain Attia, chef du service d'hépatogastro-entérologie au CHU du Haut-Pougon Abidjan, professeur titulaire d'hépatogastro-entérologie, membre de la Société ivoirienne de gastro-entérologie et d'endoscopie digestive.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Plusieurs points que je voudrais encore aborder avec vous, docteur Jean-François Kountou, avant de conclure. On a parlé de ces conseils hein, de la vie de tous les jours, boire plus, avoir de l'activité physique, manger à des horaires précis. Tout ça, c'est du bon sens, même si ce n'est pas forcément prouvé, attesté de façon scientifique. Mais il n'empêche, vous, médecin, vous donnez ces conseils à vos patients. Tous les gastro-entérologues le font.
Oui, même si c'est pas factuel et si l'académie n'a pas estampillé cette démarche, il est utile de demander aux patients de réguler leur transit intestinal en ayant des repas à heure fixe, en mâchant de façon prolongée, en buvant beaucoup en dehors des repas, en ayant une activité physique. Encore une fois, même si on n'a pas fait la preuve quand on se déplace en avion, on est constipé, donc il doit y avoir forcément une petite incidence là. Il faut choisir l'alimentation, oui, mastiquer. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas sauter de repas. Il faut avoir 3 repas par jour et ça permettra d'harmoniser la fonction intestinale.
Toute dernière question, comment se fait-il que le transit soit lié pour pas mal de monde au lieu où l'on réside, par exemple quand on change de latitude, soit on est constipé, soit on passe vers une diarrhée, on parle de tourista justement lié à ce changement de lieu, comment se fait-il finalement qu'il y ait autant d'incidence sur le lieu de résidence et la qualité du transit?
Alors, il y a plusieurs raisons. On peut en se déplaçant et en voyageant attraper une tourista. Alors la tourista, ça a une cause organique, c'est lié à un virus, à une bactérie, et donc c'est pas étonnant ça, mais les modifications du transit intestinal quand on se déplace, on n'est plus chez soi, sont liées à des problèmes psychologique, on n'est pas dans ces appartements où on a une espèce de sérénité et qui est nécessaire à cette fonction intestinale exonératrice, et cette perturbation suffit quelquefois à c'est comme les enfants qui se retiennent d'aller aux toilettes quand ils sont à l'école, ils ne veulent aller aux toilettes que lorsque ils sont chez eux.
C'est une histoire de confort, tout
simplement. C'est une histoire de confort, et puis c'est plus psychogénique que organique.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, docteur Jean-François Kountou, d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. On remercie ces auditeurs parce que c'est pas toujours facile de parler de ce genre de sujet. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue.
Priorité santé sur RFI.
Le 60e congrès de la Société américaine d'hématologie s'est tenu la semaine dernière à San Diego, l'occasion d'aborder la question des nouveaux traitements en matière de cancer. Pour en parler, nous sommes en ligne avec André Choulika. Bonjour.
Bonjour.
André Choulika, vous êtes chercheur, docteur en virologie moléculaire, chef d'entreprise aussi, puisque vous êtes l'un des fondateurs de Selectis, entreprise d'ingénierie du génome spécialisée dans le développement d'immunothérapie. Alors avec vous, on va justement évoquer ces traitements innovants pour lutter contre les cellules cancéreuses. C'est compliqué hein, quand on lit les explications. Malgré tout, je vais vous lancer un défi. Comment le système immunitaire cible ces cellules? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça le plus simplement possible?
Alors, je pense que ça peut être expliqué de façon très très simple, parce que le système immunitaire est une chose formidable que nous avons chacun et qui est extrêmement précise, parce que le système immunitaire est capable de façon très très ciblée de reconnaître quelque chose qui est une intrusion dans le corps humain ou une cellule qui va mal et pouvoir la détruire et laisser les cellules saines. Et l'immunothérapie, c'est l'utilisation de cette qualité du système immunitaire pour pouvoir recibler, en fait, notre système immunitaire, par certaines manières, vers les cellules cancéreuses que normalement le système immunitaire ne détecte pas. Donc, notre système immunitaire passe devant une cellule cancéreuse et la reconnaît pas comme une mauvaise cellule. Et ce que va faire, en fait, les chercheurs dans ce domaine-là, c'est qu'ils vont prendre ce système immunitaire ou les propriétés de ce système immunitaire et vont commencer à fabriquer des outils pour aller cibler très spécifiquement une cellule cancéreuse. Alors, comment ils font ça? La cellule cancéreuse circule dans le sang et elles ont en fait des petits marqueurs à leur surface. On peut considérer que c'est des petits drapeaux particuliers de la cellule cancéreuse. Alors ces petits marqueurs peuvent avoir des formes différentes en fonction des cancers. Par exemple, un cancer, une leucémie lymphoblastique aiguë peut avoir un petit marqueur qui s'appelle CD19 à la surface, qui est présent sur toutes les cellules B. Alors, on va pouvoir, d'une certaine manière, pouvoir fabriquer une petite fléchette, c'est un anticorps, un missile à tête chercheuse, hein, qui va injecter dans le sang et qui va pouvoir aller dans le sang et, avec sa petite tête chercheuse, reconnaître ce petit drapeau, ce petit marqueur à la surface de la cellule, et va se coller dessus avec une très très grande spécificité, sans toucher rien d'autre que ces cellules B, en fait, hein, ou son contenu, les cellules cancéreuses. C'est un missile qui n'a pas une charge explosive qui va exploser sur la cellule. Et cette immunothérapie, donc l'utilisation de ces anticorps contre ces cellules cancéreuses, peut avoir une certaine puissance. Donc en gros, un anticorps tout seul, il en faut 100 000 par cellule ou plus pour pouvoir tuer une cellule cancéreuse. Alors on peut attacher par exemple de la chimiothérapie à cet anticorps et le balancer dans le sang. Donc ça va concentrer la chimiothérapie uniquement sur les cellules cancéreuses. Et il y a la troisième option, de pouvoir mettre cette petite tête chercheuse sur une cellule du sang, donc ce qu'on appelle une cellule T, qui sont en fait des cellules tueuses, c'est une sorte de police qui va essayer de détecter toute intrusion dans le corps. On va lui enlever cette capacité de pouvoir détecter l'intrusion dans le corps. Donc cette cellule T, qui est une cellule tueuse, va devenir complètement aveugle et on va lui mettre une nouvelle capacité de voir. Cette nouvelle capacité de voir de cette cellule, c'est de voir uniquement CD19, donc ce petit drapeau sur les cellules cancéreuses.
André Choulika, je vous interromps parce qu'il nous reste une minute, hélas, très peu de temps. Je voudrais juste vous demander, aujourd'hui, ces traitements par immunothérapie, ils interviennent quand on a déjà essayé la chimiothérapie, quand on a déjà essayé la radiothérapie, c'est une troisième solution, c'est bien cela ?
Alors, c'est une solution qui vient en dernier recours aujourd'hui, mais je pense qu'elle va remonter les lignes, c'est-à-dire on va l'utiliser de plus en plus en premier traitement, mais aujourd'hui, c'est essentiellement utilisé pour des patients qui n'ont plus d'autres solutions thérapeutiques, donc des patients qui partent en soins palliatifs. Il y a certains patients qui ont près de 2 kilos de tumeurs, des fois, on a traité ce type de patient, et l'injection de cette cellule T, donc elle va reconnaître la cellule cancéreuse, elle va commencer à avoir une expansion. On est capable de fondre 2 kilos de tumeurs en l'espace de 10-15 jours, ce qui peut aussi provoquer des effets secondaires très très importants, parce qu'il y a beaucoup de déchets cellulaires dans le sang, et ça permet de voir un taux de rémission qui est extrêmement élevé, plus de 85-90% des patients traités de cette façon-là se retrouvent en rémission complète au bout de 28 jours.
Merci infiniment André Choulika. On aura bien sûr l'occasion de reparler de ces immunothérapies dans une prochaine émission de Priorité Santé consacrée à ces traitements innovants contre le cancer. Merci infiniment, désolé d'avoir dû vous interrompre. Vous êtes donc chercheur, fondateur de l'entreprise d'ingénierie du génome Selectis. Et demain, dans Priorité Santé, eh bien, nous allons parler de la chirurgie cardiaque en particulier au Mali. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre